Il avait vraiment de la chance de manquer d'imagination. Le peu qu'il avait vu avait déjà suffi à le rendre légèrement paranoïaque. Mais s'il avait été capable de relier les incidents et de réfléchir à ce qu'il présageait, il serait à coup sûr devenu complètement fou. Dans la pénombre, il se dépêcha de rentrer, les horribles cris de la démente et de l'enfant à bout de nerfs résonnant à ses oreilles. 3 jours plus tard, au petit matin, Naoum fit irruption dans la cuisine d'Emmy en titubant. En l'absence de son hôte, il la prit encore une fois et avec force balbutiement, une nouvelle déchirante à une Madame Pierce saisie de terreur. Cette fois, c'était le tour du petit Mervyn. Il avait disparu. Il était sorti tard la veille au soir, muni d'une lanterne et d'un seau pour aller puiser de l'eau, et n'était jamais revenu. Depuis des jours, il était effondré et savait à peine ce qu'il faisait. Il hurlait pour un rien. Un cri incontrôlé et strident avait retenti dans la cour, mais avant que Naoum ait eu le temps d'ouvrir la porte, le garçon avait disparu sans laisser de traces. On ne voyait même plus la lueur de sa lanterne. Sur le moment, Naoum avait pensé que lanterne et seau avaient disparu avec son fils, mais à l'aube, alors qu'il revenait le pas lourd, après avoir passé la nuit à explorer les bois et les champs, il avait trouvé de bien curieux indices près du puits. Un morceau de fer broyé et apparemment partiellement fondu, sans doute la lanterne, mais aussi une anse et des cercles de fer tordus et en partie fusionnés qui devaient former les vestiges du seau. C'était tout. Naoum avait fini d'imaginer des réponses. Madame Pierce avait la tête vide. Et Amy, quand il rentra et entendit ce récit, sa voix impuissant. Mervyn avait disparu, et il ne servait à rien d'en parler aux gens du pays qui évitaient déjà tous les Gardner. Il serait d'ailleurs tout aussi inutile d'informer les habitants d'Arkham, qui ne savaient que se moquer. Tad n'était plus là, et maintenant Mervyn non plus. Quelque chose rampait, en attendant de faire voir, entendre, sentir. Ce serait bientôt le tour de Naoum de disparaître, et il voulait qu'Amy s'occupe de sa femme et de Zénas s'il lui survivait. Tout cela devait être une sorte de châtiment, mais il ne parvenait pas à comprendre de quoi on le punissait, car pour autant qu'il puisse en juger, il avait toujours suivi scrupuleusement les voies du Seigneur. Amy ne revit pas Naoum pendant plus de 2 semaines. Inquiète de ce qui avait pu se passer, il surmonta ses peurs et se rendit chez les Gardner. L'espace d'un moment, le visiteur craignit le pire. Aucune fumée ne s'échappant de la grande cheminée. La ferme tout entière présentait un aspect lamentable. L'herbe et les feuilles grises et flétries sur le sol, les débris de plantes grimpantes qui tombaient des murs et pignons archaïques, et les grands arbres dénudés qui tendaient leurs serres vers le morne ciel de novembre, avec une malveillance délibérée, qu'Amy ne put s'empêcher de percevoir au subtil changement de l'inclinaison de leurs branches. Naoum, cependant, était en vie. Il était étendu sur un divan dans la cuisine au plafond bas. Malgré sa faiblesse, il était parfaitement conscient et encore en mesure de donner des ordres simples à son fils. Un froid mortel régnait dans la pièce. Voyant Amy frissonner, son hôte cria d'une voix rauque à Zénas de retourner chercher du bois. Et du bois, il y en avait grandement besoin, car l'âtre immense était vide. Le vent glacial qui entrait dans la cheminée soulevait un nuage de suie. Naoum demanda aussitôt à Amy si le bois supplémentaire avait suffi à le réchauffer. Et Amy comprit ce qu'il en était. La corde la plus solide de l'esprit du fermier avait fini par rompre. Le pauvre homme ne connaîtrait plus le chagrin. Malgré ces questions pleines de tact, Amy ne parvint pas à obtenir d'éclaircissement sur l'absence de Zénas.
Dans le puits, il vit dans le puits,
fut tout ce qu'il put tirer du cerveau embrumé du père. Pensant tout à coup à l'épouse démente, le visiteur changea d'angle d'attaque.
Nabi, mais elle est là, répondit le pauvre Naoum surpris.
Amy prit conscience qu'il allait devoir mener son enquête. Il laissa l'homme étendu à ses inoffensifs bavardages, saisit les clés accrochées à côté de la porte et gravit l'escalier grinçant jusqu'au grenier.
En haut, il faisait lourd, et la puanteur était écœurante. On n'entendait aucun bruit nulle part. Sur les quatre portes visibles, une seule était verrouillée. Il essaya sur la serrure les différentes clés du trousseau. La troisième fut la bonne, et après avoir quelque peu tâtonné, Amy ouvrit la basse porte blanche. Il faisait très sombre dans la mansarde. La fenêtre étant petite et à moitié obstruée par de grossiers barreaux de bois, si bien qu'Amy ne vit rien sur le plancher à large latte. La puanteur insoutenable le força à reculer pour reprendre sa respiration. Lorsqu'enfin il entra, il distingua une silhouette sombre dans le coin. Quand il la discerna mieux, il se mit carrément à hurler. Et alors même qu'il criait, il eut l'impression, l'espace d'un instant, de voir un nuage occulter la fenêtre. Une seconde plus tard, il se sentit frôlé par une sorte de bouffée de vapeur immonde. De drôles de couleurs dansaient devant ses yeux, et s'il n'avait été paralysé par l'horreur à laquelle il était confronté, cela lui aurait rappelé le globule que le marteau du géologue avait fait éclater dans la météorite et la végétation maladive qui avait poussé au printemps. Mais en l'occurrence, il ne pensait qu'à la monstruosité blasphématoire qui lui faisait face et qui, ce n'était que trop clair, avait partagé le sort indicible du jeune Thaddeus et du bétail. Et le plus épouvantable était que cette abomination bougeait très lentement, mais visiblement tout en continuant de se désagréger. Amy ne m'en dit pas davantage sur cette scène, mais, dans la suite de son récit, la silhouette dans le coin de la pièce ne bougeait plus. Il est des choses qu'il vaut mieux taire, et des actes de simple humanité sont parfois cruellement jugés par la loi. Je crus comprendre qu'au départ d'Amy, il ne restait plus rien de vivant dans la mansarde, et qui abandonnait tout être encore capable de mouvement eût été un acte assez monstrueux pour condamner le responsable à une éternité de tourments. Tout autre qu'un fermier flegmatique aurait perdu connaissance ou sombré dans la folie. Amy, lui, savait ce qu'il faisait lorsqu'il refranchit la porte basse et enferma à clé le terrible secret. Il devait maintenant s'occuper de Naoum, le nourrir, le soigner, et l'emmener quelque part où il pourrait être pris en charge. Alors qu'il commençait à descendre l'escalier sombre, Amy entendit un bruit sourd au rez-de-chaussée. Il eut même l'impression qu'un cri avait été soudainement étouffé, et se rappela avec nervosité la vapeur moite qu'il avait frôlée dans l'effroyable mansarde. Quelle présence son entrée et son cri avaient-ils attiré? Retenu par une peur indéfinissable, il perçut d'autres bruits en bas. À n'en point douter, on traînait un objet lourd. Il y avait aussi un bruit visqueux particulièrement écœurant, comme une sorte de succion impure, diabolique. Grâce à un sens du rapprochement poussé à un niveau extrême par la peur panique, il songea inexplicablement à ce qu'il avait vu à l'étage. Dieu du ciel! Dans quel monde étrange et cauchemardesque avait-il mis les pieds? Il n'osait ni avancer, ni reculer, et restait donc planté, tremblant, dans le virage sombre de l'escalier. Chaque détail de la scène se grava dans son cerveau. Les sons, l'épouvantable appréhension, les ténèbres, la raideur des marches étroites, et bonté divine, la légère mais indéniable luminescence de toutes les boiseries en vue, aussi bien les marches et les lattes apparentes que les poutres. Soudain, dehors, le cheval d'Amy poussa un hennissement frénétique. Aussitôt retentit un bruit de cavalcade effrénée. L'animal s'enfuyait. Quelques instants plus tard, cheval et boquet étaient trop loin pour qu'on les entende, laissant l'homme effrayé dans son escalier obscur se demander ce qui les avait fait fuir. Mais ce n'était pas tout. Amy avait entendu autre chose là, dehors. Une sorte de bruit d'éclaboussement. De l'eau. Cela devait venir du puits. Il avait laissé Héro à côté sans l'attacher. Sans doute une roue de la voiture avait-elle touché le couronnement et délogé une pierre qui était tombée au fond. Et les boiseries, horriblement antiques, ne cessaient d'émettre leur pâle phosphorescence. Dieu, que cette maison était vieille! La majeure partie datait d'avant 1670, Quant au toit à double pente, il remontait au mieux à 1730. Au rez-de-chaussée se fit entendre un grattement léger, mais net, et Amy serra dans son poing le lourd bâton dont il s'était servi dans la mansarde. Il rassembla peu à peu son courage, puis acheva de descendre l'escalier et prit hardiment la direction de la cuisine. Toutefois, il n'alla pas jusqu'au bout, car celui qu'il cherchait n'y était plus. Il était venu à sa rencontre et n'était pas tout à fait mort. Avait-il rampé ou en l'avait traîné? Amy n'aurait su le dire, mais la mort s'était acharnée sur la pauvre créature. En l'espace d'une demi-heure seulement, l'effondrement, la grisaille et la désintégration étaient déjà très avancés. La chair était horriblement cassante et s'écaillait par fragments desséchés. Amy ne put se résoudre à toucher le malheureux, mais regarda sans détour, bien qu'avec horreur, cette caricature difforme qui avait été un visage. « Qu'est-ce que c'était, Naoum ? » murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'était ?» Et les lèvres fendues et gonflées purent à peine balbutier une ultime réponse. « Moyen, rien, la couleur, elle brûle, froide et mouillée, mais elle brûle. » Elle vivait dans le puits, je l'ai vu. Un genre de fumée, comme les fleurs du printemps dernier. Le puits brillait la nuit. Tad et Merni, et puis Zénas, tous vivants. Elle leur suce la vie à tous dans cette pierre. Sûr que c'est venu de cette pierre. Elle a tout pourri. Je sais pas ce qu'elle veut. Ce truc rond que les gars de l'université ont trouvé en creusant la pierre. Ils l'ont fait exploser. Elle était de la même couleur. Tout pareil que les fleurs et les plantes. Il devait y en avoir d'autres. Des graines. C'est des graines. Elles ont poussé. Je l'ai vu cette semaine pour la première fois. Zénas a dû lui profiter. T'es un garçon bien bâti, plein de vie. Elle te démolit le cerveau, puis elle te prend. Elle te vide dans l'eau du puits. T'avais raison. L'eau est mauvaise. Zénas n'est jamais revenu du puits. Tu peux pas lui échapper. Elle t'attire. Tu sens que ça arrive, mais ça change rien. Je la vois souvent depuis qu'elle a pris Zénas. Et Nabi, elle est où, Amy? J'ai plus ma tête. Je sais plus c'était quand la dernière fois que je l'ai nourrie. La chose va la prendre si on fait pas attention. C'est rien qu'une couleur. Sa figure commence à avoir la même couleur. Quelquefois le soir, ça brûle et puis ça suce la vie. Ça vient d'un endroit où les choses sont pas comme ici. C'est un des professeurs qui l'a dit. Il avait raison. Fais attention, ami. C'est pas fini. Ça suce la vie. Et ce fut tout. Le malheureux ne parlerait plus, car il s'était complètement effondré sur lui-même. Amy couvrit ses restes avec une nappe à carreaux rouges et sortit choqué par la porte de derrière donnant sur les champs. Il gravit la pente jusqu'au pré de 4 hectares et, d'un pas incertain, rentra par la route du nord et les bois. Il ne pouvait passer devant ce puits que son cheval avait fui. Il l'avait regardé par la fenêtre et avait bien vu qu'aucune pierre ne manquait à la margelle. L'embardé du boquet n'avait donc rien délogé. L'éclaboussement était dû à autre chose. une chose retournée dans son puits après en avoir terminé avec le pauvre Naoum. En arrivant chez lui, Amy vit que cheval et voiture étaient arrivés avant lui, ce qui avait plongé sa femme dans l'angoisse. Il la rassura sans un mot d'explication et partit aussitôt pour Arkham, où il informa les autorités que la famille Gardner n'était plus. Il n'entra pas dans les détails, se contentant de parler des décès de Naoum et Nabi, car celui de Thaddeus était déjà connu, en précisant que la cause était la même affection étrange qui avait tué le bétail. Il déclara aussi que Mervyn et Zenas avaient disparu. Il subit un interrogatoire en règle au poste de police et, à la fin, fut obligé de conduire à la ferme des Gardner trois agents, le coroner, le légiste et le vétérinaire qui avait soigné les bêtes malades. Amy y alla à reculons. L'après-midi avançait et il redoutait de voir la nuit tomber sur ce lieu maudit. Toutefois, il était plutôt réconfortant d'y aller en compagnie de tous ces gens. Les six hommes suivirent le boquet d'Amy dans leur grand chariot tiré par deux chevaux. Ils arrivèrent à la maison ravagée vers 4 heures. Les agents avaient beau être habitués aux expériences macabres, pas un ne resta insensible à ce qu'ils virent dans la mansarde et au rez-de-chaussée sous la nappe à carreaux rouges. L'aspect de la ferme au cœur de son désert gris était déjà terrible, mais les deux corps effondrés étaient pires que tout. Il était impossible de poser longtemps les yeux dessus. Le légiste reconnut d'ailleurs qu'il ne restait pas grand-chose à examiner. On pouvait en revanche prélever des spécimens à analyser, et il s'attela donc à la tâche. Ce qui mena à la très curieuse découverte faite au laboratoire de l'université, où l'on emporta les deux flacons de poussière. Examinés au spectroscope, les deux échantillons présentèrent un spectre inconnu, dont la majorité des raies déconcertants correspondaient précisément à ceux que l'étrange météorite avait produit l'année précédente. La poussière cessa d'émettre ce spectre en l'espace d'un mois et, par la suite, se composa presque exclusivement de phosphate et carbonate alcalin. Amy n'aurait pas parlé du puits aux hommes s'il avait su qu'ils étaient prêts à agir sur le champ. Le soleil allait se coucher et le fermier avait hâte de partir. Mais remarquant qu'il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux à la margelle de pierre près de la grande bascule, un agent l'interrogea à ce sujet. Et Amy reconnut que Naoum avait craint qu'il y ait quelque chose au fond, si bien qu'il n'avait même jamais eu l'idée d'y chercher Mervyn ou Zenas. Après cela, rien n'aurait pu empêcher les policiers de vider et d'explorer le puits sans attendre. Amy dut donc patienter en tremblant pendant que l'on remontait seau sur seau d'eau fétide et qu'on les répandait sur le sol trempé. Les hommes reniflaient de dégoût, vers la fin la puanteur était telle qu'ils devaient se boucher le nez. La tâche s'avéra moins longue qu'ils l'avaient craint, car le niveau de l'eau était extrêmement bas. Inutile de s'étendre trop précisément sur ce qu'ils trouvèrent. Mervyn et Zenas étaient tous deux au fond, en partie du moins, puisqu'il n'en restait guère plus que des squelettes. Il y avait aussi un petit daim et un gros chien, à peu près dans le même état, ainsi que des ossements d'animaux plus menus. Au fond, la vase visqueuse semblait inexplicablement absorbante et bouillonnante, et un homme qui descendit les échelons armé d'une longue perche s'aperçut qu'il pouvait enfoncer cette dernière à n'importe quelle profondeur sans rencontrer le moindre obstacle solide. Comme le crépuscule s'était installé, ils allèrent chercher des lanternes dans la maison. Quand il fut évident qu'on ne tirerait plus rien du puits, tout le monde entra discuter dans l'antique salon, pendant qu'une demi-lune spectrale faisait jouer sa pâle lumière intermittente sur le désert gris autour de la ferme. Les hommes s'avouèrent franchement déconcertés par toute cette affaire. Ils ne trouvaient aucun élément commun et convaincant permettant de faire le lien entre l'état étrange de la végétation, la maladie inconnue affligeant bétails et humains, et la mort inexplicable de Mervyn et Zenas au fond du puits infecté. Certes, ils avaient entendu les rumeurs du pays, mais ils refusaient d'admettre qu'il ait pu arriver quoi que ce soit de contraire aux lois de la nature. La météorite avait de toute évidence empoisonné la terre, mais la maladie contractée par les gens et les animaux ne pouvait avoir de rapport direct, puisque ni les uns ni les autres
n'avait mangé de produits issus du sol de la ferme. Était-ce l'eau du puits? Tout à fait possible. Ce serait peut-être une bonne chose de l'analyser. Mais quelle étrange folie avait pu pousser les deux garçons à sauter dans le puits? Leurs actes avaient été si semblables. Quant à leur reste, ils prouvaient que les frères avaient tous deux connu la mort grise et friable. Pourquoi tout était-il si gris et friable? Le coroner, qui était assis près d'une fenêtre donnant sur la cour, fut le premier à remarquer la lueur autour du puits. Il faisait tout à fait nuit, et l'odieux domaine semblait légèrement lumineux, d'une manière que les rayons sporadiques de la lune ne pouvaient expliquer. Cette nouvelle clarté était nette et différente, et paraissait jaillir de la fosse noire, telle la source atténuée d'une lanterne, en projetant des reflets sans éclat dans les petites flaques résultant de la gueule du puits. La lueur avait une couleur très insolite, tandis que les hommes s'agglutinaient à la fenêtre et m'y sursauta violemment, car la teinte de cette étrange raie épouvantablement miasmatique ne lui était pas inconnue. Il avait déjà vu cette couleur et craignait de comprendre ce que cela signifiait. Il l'avait vu 2 étés plus tôt sur l'ignoble globule cassant encastré dans l'aérolite. Il l'avait vu sur la folle végétation du printemps et l'espace d'un instant avait cru la surprendre le matin même devant la fenêtre de l'horrible mansarde où s'étaient produites des choses indescriptibles. Elle était apparue pendant 1 seconde, juste avant que l'écœurante vapeur moite le frôle. Puis une chose de la même couleur avait pris le pauvre Naoum. Il l'avait révélé tout à la fin, avait dit que c'était le globule et les plantes. Après quoi, Amy avait entendu la cavalcade dans la cour et le bruit d'eau dans le puits, ce puits qui, à présent, crachait à la figure de la nuit un rayon blême de la même teinte démoniaque. Preuve de la sagacité d'Amy, malgré l'émotion du moment, ce fut un problème essentiellement scientifique qui l'intrigua. Il s'étonnait d'avoir ressenti la même impression en entreapercevant une vapeur en plein jour devant une fenêtre ouverte sur le ciel matinal qu'en contemplant une émanation nocturne à travers une brume phosphorescente sur la toile de fond d'un paysage noir et désolé. Ce n'était pas logique, c'était contraire à la nature. Et il repensa aux derniers mots terribles de son ami moribond. « Ça vient d'un endroit où les choses sont pas comme ici. » C'est un des professeurs qui l'a dit. Dehors, les 3 chevaux qui étaient attachés à 2 jeunes arbres flétris au bord de la route hennissaient et piaffaient frénétiquement. Le conducteur du chariot se dirigea vers la porte pour intervenir, mais Amy posa une main tremblante sur son épaule. « Faut pas y aller, » murmura-t-il. « Il y a quelque chose qu'on voit pas, là, dehors. » « Naoum a dit que dans le puits, il y a quelque chose qui vous suce la vie. Il a dit que ça devait venir d'une boule comme celle qu'on a tous vue dans le météore qui est tombé en juin l'année dernière. Ça suce et ça brûle, il a dit. Et c'est un nuage de la même couleur que cette lumière là dehors, qu'on a du mal à voir et qu'on sait pas dire comment qu'elle s'appelle. Naoum pensait que ça se nourrit de tout ce qui vit, que c'est de plus en plus fort. Il a dit qu'il l'avait vu la semaine passée. Ça doit être quelque chose qui vient loin dans le ciel, comme les gars de l'université ont dit pour le météore. La façon que c'est fait, que ça marche, c'est pas comme les choses du monde du bon Dieu. C'est quelque chose d'au-delà. » Les hommes attendirent donc, indécis, tandis que la lumière du puits devenait plus forte et que les chevaux attachés s'agitaient de plus belle. Ce fut vraiment un moment effroyable, pris au piège dans cette vieille maison, à proximité des 4 tas de débris monstrueux, 2 provenant de la maison et 2 du puits, enfermés dans la remise à bois derrière avec ce rayon de lumière irisé aussi étrange que malsain qui jaillissait des profondeurs visqueuses du puits devant eux. Amy avait certes agi instinctivement en empêchant le conducteur de sortir, oubliant que lui-même était ressorti indemne de sa rencontre avec la vapeur moite et colorée dans la mansarde. Mais peut-être était-ce pour le mieux. Nul ne saura jamais ce qu'il y avait dehors cette nuit-là, et Même si l'émanation blasphématoire venue d'outre-monde n'avait encore jamais attaqué un humain dont l'esprit n'était pas affaibli, il est impossible de dire ce qu'elle aurait pu faire au dernier moment, forte de sa puissance manifestement accrue et sachant les signes de volonté délibérée qu'elle allait bientôt montrer sous la lune et le ciel voilé. Tout à coup, l'un des agents devant la fenêtre retint sa respiration. Les autres se tournèrent vers lui, puis s'empressèrent de suivre son regard lorsque celui-ci se fixa brusquement en hauteur, après avoir erré au hasard. Les mots étaient inutiles. Ce que l'on avait rejeté comme de simples rumeurs campagnardes n'était plus contestable, et si l'on ne parle jamais des jours étranges à Arkham, c'est à cause de ce moment que les hommes présents ce soir-là décidèrent de ne plus évoquer à voix haute. Il faut préciser qu'à cette heure de la nuit, il n'y avait pas de vent. Une brise se leva peu de temps après, mais à ce moment-là, il n'y avait pas l'ombre d'un souffle. Même les pointes desséchées des dernières barbarées grises et flétries, et la frange sur le toit du chariot à l'arrêt restaient immobiles. Et pourtant, dans ce calme tendu, impie, les branches dénudées au sommet de tous les arbres de la cour bougeaient. Agitées de spasmes morbides, elles donnaient des coups de serre convulsifs, dignes d'une crise d'épilepsie vers les nuages éclairés par la lune, griffant en vain l'air nocif, comme si elles avaient été reliées par quelques liens étrangers et immatériels aux horreurs souterraines qui se tortillaient et se débattaient sous les racines noires. Pendant plusieurs secondes, personne ne respira. Puis un nuage plus épais et plus sombre que les autres passa devant la lune, et les silhouettes de branches griffues disparurent momentanément. Sur ce, tout le monde hurla. Les cris assourdis par la stupeur, mais rauques, furent presque identiques, car la terreur n'avait pas diminué avec la disparition des silhouettes et l'espace d'un effroyable instant où l'obscurité fut particulièrement profonde. Les observateurs virent onduler au faîte d'un arbre mille minuscules points formant au bout de chaque rameau une auréole blafarde et maléfique, rappelant un feu de Saint-Elme ou les flammes qui descendirent sur les têtes des apôtres à la Pentecôte. Les points de lumière surnaturelle formaient une monstrueuse constellation, tel un essaim de lucioles rassasiées de cadavres, essaim dansant d'infernales sarabandes au-dessus d'un marais maudit. Quant à leur couleur, c'était celle-là même qu'Amy avait appris à reconnaître et à redouter. Et pendant ce temps, le rayon phosphorescent du puits, de plus en plus intense, donnait aux hommes blottis les uns contre les autres une impression d'anormalité et d'inéluctabilité qui dépassait de loin tout ce que leur esprit conscient pouvait concevoir. Ce n'était plus un jaillissement, mais un véritable déferlement, et le faisceau amorphe de couleurs indéfinissables semblait quitter le puits pour se couler directement dans le ciel. Le vétérinaire frissonna, et alla placer la lourde barre de sécurité en travers de la porte d'entrée, et Amy n'en trembla pas moins. Incapable de maîtriser sa voix pour attirer l'attention de ses compagnons, il dut les tirer par la manche et pointer du doigt la luminosité croissante des arbres. Les hennissements des chevaux étaient à présent positivement effrayants, mais tout l'or du monde n'aurait pas suffi à sortir l'un des hommes terrés dans la vieille maison, et l'éclat des arbres augmentait de minute en minute, tandis que leurs branches remuantes paraissaient se tendre progressivement vers le ciel. Le bois de la bascule luisait aussi. Bientôt, sans mot dire, un policier montra près du mur de pierre à l'ouest des abris de jardin et des ruches qui commençaient à briller. En revanche, les véhicules attachés des visiteurs ne paraissaient pas encore affectés. C'est alors que retentit un grand fracas, suivi d'un bruit de sabots sur la route. Lorsqu'Amy éteignit sa lampe pour mieux voir à l'extérieur, les hommes s'aperçurent que les chevaux gris de l'attelage, pris de frénésie, avaient cassé leur arbuste et s'étaient enfuis avec le chariot. La surprise délia plusieurs langues, et l'on échangea des murmures gênés. « Ça se transmet à tout ce qui est organique dans les parages, » marmonna le légiste. Nul ne répondit,
Mais l'homme qui était descendu dans le puits suggéra que sa longue perche avait dû réveiller quelque chose d'intangible. « C'est horrible !» ajouta-t-il. « Il n'y a aucun fond, rien que de la vase et des bulles, et j'avais l'impression que quelque chose était tapis là en bas. » Au bord de la route, le cheval d'Amy continuait de hennir à plein poumon, tant et si bien qu'on entendit à peine les balbutiements de son propriétaire qui tentait d'exprimer ses pensées désordonnées d'une voix faible et chevrotante.
« Ça vient de cette pierre. Ça a grandi au fond du puits en prenant tout ce qui vivait. Ça vivait dessus, esprit et corps. Ils buvaient tous l'eau du puits. Ça s'est renforcé sur leur dos. Ça vient d'ailleurs, d'un endroit où les choses sont pas comme ici. Et v'là que ça va y retourner. »
À cet instant précis, alors que la colonne de couleur inconnue se faisait plus flamboyante et commençait à suggérer des formes fantastiques, dont chacun des spectateurs donnerait plus tard une description différente, le pauvre héros, qui était encore attaché, poussa un cri tel qu'aucun homme n'en avait jamais entendu venant d'un cheval. Dans le salon où l'on parlait à voix basse, tout le monde se boucha les oreilles. D'horreur et de dégoût, Amy détourna le regard. Les mots ne sauraient exprimer ce qu'il avait vu. Lorsqu'il regarda de nouveau par la fenêtre, la malheureuse bête gisait inerte, recroquevillée sous la lune, entre les brancards cassés de la voiture. Ainsi mourut Héros, que l'on enterrera le lendemain. Mais Amy n'eut pas le temps de le pleurer, car presque aussitôt un policier attira sans un mot l'attention sur quelque chose de terrible dans la pièce même où il se trouvait. La lanterne étant éteinte, on voyait bien qu'une légère phosphorescence avait commencé à envahir les lieux. Elle luisait sur les larges lattes du plancher, le bout de tapis élimé, et faisait chatoyer le châssis des fenêtres à petits carreaux. Elle courait sur toute la hauteur des poutres cornières apparentes, scintillait autour du bandeau et de la hotte de cheminée, et infectait jusqu'aux portes et meubles. Elle gagnait sans cesse en intensité, et il finit par devenir évident que tout être vivant en bonne santé devait sortir de cette maison. Amy montra à ses compagnons la porte de derrière et le chemin qui montait à travers champs jusqu'au pré de 4 hectares. Ils marchèrent d'un pas chancelant, comme dans un rêve, et n'osèrent jeter le moindre coup d'œil en arrière avant d'être suffisamment loin et haut. Le chemin leur convenait car ils n'auraient pas pu passer à côté du puits pour rejoindre la route de devant. Il fut déjà bien assez difficile de longer la grange et les appentis luisants, puis les arbres brillants du verger, avec leurs formes noueuses, démoniaques. Mais Dieu merci, les branches tournaient pour la plupart leurs griffes vers le ciel. La lune se cacha derrière des nuages particulièrement noirs lorsqu'ils traversèrent le pont rustique, surplombant le Champman, et les hommes durent continuer à tâtons jusqu'au pré découvert. Quand ils se retournèrent vers la vallée et le lointain domaine des Gardner au fond de celle-ci, ils assistèrent à un spectacle effroyable. La ferme tout entière, les arbres, les bâtiments, et même la végétation qui n'avait pas encore été gagnée par la grisaille et la désintégration, baignait dans l'horrible mélange de couleurs inconnues. Toutes les branches étaient tendues vers le ciel et surmontées de hideuses langues de feu, ce même feu monstrueux dont les ruissellements brillants rongeaient les pannes faîtières de la maison, de la grange et des appentis. La scène rappelait une vision de Fuseli. Tout le reste était dominé par cette débauche de lumière amorphe, cet arc-en-ciel démesuré et surnaturel de poison mystérieux jaillit du puits. Le spectre cosmique et inidentifiable bouillonnait, palpait, lapait, s'étirait, scintillait, se crispait et produisait des bulles maléfiques. Alors, sans prévenir, la chose hideuse s'envola vers le ciel à la manière d'une fusée ou d'un météore, sans laisser de sillage, et avant que quiconque ait eu le temps de retenir son souffle ou de laisser échapper la moindre exclamation, disparut par un trou rond, étonnamment régulier dans les nuages. Aucun des spectateurs n'a jamais pu oublier ce spectacle. Le regard hébété d'Emmy se riva sur les étoiles du cygne, parmi lesquelles Deneb brillait tout particulièrement. C'était là que la couleur inconnue s'était fondue dans la voie lactée. Toutefois, l'attention du fermier fut aussitôt rappelée sur terre par un crépitement dans la vallée. Il n'y eut vraiment rien d'autre, seulement un crépitement et un bruit de bois arraché, et pas une explosion, contrairement à ce qu'affirmèrent la plupart des hommes présents. Et cependant, le résultat fut le même, car en un instant fiévreux, kaléidoscopique, une éruption cataclysmique d'étincelles et de substances surnaturelles jaillit de la ferme maudite et condamnée. Elle troubla la vue de quelques témoins et bombarda le zénith d'une averse de fragments si fantastiques et d'une couleur telle qu'il n'aurait pu provoquer que reniement dans notre univers. Les 10 fragments suivirent le grand dépérissement à travers les nuages qui se refermaient déjà. Une seconde plus tard, ils avaient disparu à leur tour. Derrière les hommes en contrebas, il ne restait que des ténèbres vers lesquelles ils n'osèrent retourner. Ils sentirent de tous côtés monter un vent dont les rafales glacées semblaient provenir du vide interstellaire. La bise hurlante fouetta les champs et les bois déformés avec toute la fureur de leur folie cosmique. Les hommes tremblants comprirent qu'il ne servait à rien d'attendre que la lune révèle ce qu'il restait de la propriété de Naoum. Trop stupéfaits pour émettre ne fût-ce qu'une hypothèse, les 7 hommes prirent la route nord pour retourner tant bien que mal à Arkham. Emmy, qui se sentait encore plus mal que ses compagnons, les supplia de leur accompagner jusque dans sa cuisine au lieu de rentrer directement en ville. Il ne voulait pas traverser seul les bois fouettés par le vent nocturne pour retourner chez lui sur la route principale. En effet, il avait subi un choc supplémentaire par rapport aux autres et serait à jamais accablé par une peur si saisissante qu'il n'oserait même pas l'évoquer avant de nombreuses années. Alors que sur la colline battue par les vents, ses compagnons étaient résolument tournés vers la route, Ami avait jeté un rapide coup d'œil vers les ténèbres de la vallée désolée où, encore si récemment, avait vécu son ami infortuné. Et au loin, au cœur de la zone ravagée, il avait vu quelque chose se redresser avec faiblesse pour retomber aussitôt. À l'endroit même où la gigantesque abomination informe avait jailli vers le ciel. Ce n'était rien qu'une couleur, mais sans pareil sur notre terre comme aux cieux. Emmy, qui l'avait reconnu et savait que ce dernier vestige devait rester tapis au fond du puits, n'eut jamais plus toute sa tête. Jamais plus il ne s'est approché de cet endroit. Les événements horribles remontent maintenant à plus d'un demi-siècle, mais il s'est toujours tenu à l'écart. Et c'est avec plaisir qu'il verra le nouveau réservoir tout engloutir. Je serai content, moi aussi, car je garde un souvenir désagréable de mon passage et, en particulier, de la manière qu'avaient les rayons du soleil de changer la couleur autour de la gueule du puits. J'espère que l'eau restera toujours très profonde, mais, même dans ce cas, je n'en boirai jamais. Je ne pense pas retourner un jour visiter la campagne d'Arkham. 3 des compagnons d'Emmy revinrent le lendemain pour contempler les ruines au grand jour, mais il n'y avait pour ainsi dire rien à voir. Il ne restait que les briques de la cheminée, les pierres de la cave, des débris métalliques et minéraux ici et là, et la margelle de l'effroyable puits. À part le cheval mort d'Emmy, qu'ils tractèrent pour l'enterrer, et la voiture qu'ils rapportèrent peu de temps après à son propriétaire, tout ce qui avait vécu là avait disparu. Restaient 2 sinistres hectares d'un désert gris et poussiéreux où aucune plante n'a plus jamais poussé. À ce jour, il s'étale encore sous le ciel, telle une grande trace rongée par l'acide au milieu des bois et des champs. Et les rares personnes qui ont osé assouvir leur curiosité malgré les rumeurs rurales l'ont surnommé l'endroit « la lande du diable ». Ces rumeurs rurales sont étranges. Elles pourraient l'être plus encore si les citadins et les chimistes de l'université voulaient bien prendre la peine d'analyser l'eau du puits désaffectée, ou cette poussière grise qui borde la zone. Car cela pourrait apporter un éclairage nouveau sur l'opinion locale, selon laquelle le fléau s'étendrait petit à petit, peut-être d'un pouce par an. On raconte que la couleur de la végétation proche n'est pas tout à fait normale au printemps, et que les bêtes sauvages laissent de drôles d'empreintes dans le mince tapis de neige en hiver. La neige, d'ailleurs, ne tombe jamais aussi drue qu'ailleurs sur la lande du diable. Les rares chevaux qui restent à notre époque dominés par les véhicules motorisés sont nerveux dans la vallée silencieuse, et les chasseurs ne peuvent se fier à leurs chiens dès lors qu'ils approchent trop de l'éclaboussure de poussière grisâtre. On parle aussi d'effets désastreux sur la santé mentale. Beaucoup de gens devinrent bizarres dans les années qui suivirent la disparition de Naoum, et jamais ils ne trouvèrent la force de s'échapper. Ceux qui avaient plus de volonté quittèrent tous la région. Il n'y avait donc plus que des étrangers pour tenter de s'installer dans les vieilles propriétés croulantes. Mais, bien entendu, ils ne restaient pas longtemps. C'est parfois à se demander si leur étrange et secrète réserve de magie sauvage ne leur donnait pas une clairvoyance supérieure. Ils se plaignent que cette région anormale leur inspire des rêves particulièrement horribles. Et, à n'en point douter, le paysage de ce royaume des ombres suffirait à vous donner des idées morbides. Impossible de traverser ces profondes ravines sans être gagné par une impression de malaise. Et les artistes ne peuvent que frissonner en peignant ces bois denses dont le mystère frappe autant l'esprit que le regard. Moi-même, je m'étonne encore du sentiment que me laissa mon unique promenade en solitaire dans le domaine, avant qu'Amy me raconte son histoire. Au crépuscule, j'avais vaguement souhaité que des nuages se forment, le vide des abysses célestes m'inspirant une appréhension singulière. Ne me demandez pas mon opinion. Je ne sais pas, point final. Je n'ai pu interroger qu'Amy, les gens d'Arkham refusant de parler des jours étranges, et les trois professeurs qui ont vu l'aérolite et le globule coloré étant morts. Des globules, il y en avait forcément d'autres. L'un d'eux a dû se nourrir et s'échapper. Il y en avait sans doute un autre qui s'est développé trop tard. Il est toujours au fond du puits, j'en suis sûr. Comme je sais que la lumière au-dessus de cette margelle infecte était anormale. Les gens d'ici disent que le mal gagne quelques centimètres par an. Aussi est-il possible que quelque chose continue de se nourrir et de grandir. Mais le démon qui attend d'éclore, quelle que soit sa nature, doit être attaché, sinon il se répandrait vite. Est-il entortillé dans les racines de ces arbres qui griffent l'air? À Arkham, on parle notamment de chênes bouffis qui brilleraient la nuit et s'agiteraient d'une manière inconcevable. De quoi il s'agit, Dieu seul le sait. Du point de vue de la matière, je pense que la chose qu'Amy décrivit pourrait être un gaz, mais un gaz obéissant aux lois d'un autre ordre cosmique. Cette substance n'était pas le fruit de mondes et de soleils tels que ceux qui brillent dans les télescopes et sur les plaques photographiques de nos observatoires. Ce n'était pas un souffle de ces cieux dont nos astronomes mesurent les mouvements et dimensions quand ils ne les jugent pas incommensurables. C'était une simple couleur venue de l'espace. Un terrifiant messager d'empires à naître, au cœur de l'infini, au-delà de la nature telle que nous la connaissons, des empires dont la seule existence est inconcevable pour l'esprit humain et nous laisse pantois face aux noirs abysses extra-cosmiques qui s'ouvrent sous nos yeux épouvantés. Je doute fortement qu'Amy m'ait consciemment menti, et je ne pense pas devoir réduire ces histoires aux élucubrations d'un démon, contrairement à ce qu'avaient prétendu les gens de la ville.
Avec ce météore, une chose effroyable s'est abattue sur les collines et vallées, et elle est toujours là, bien que j'ignore dans quelle mesure. C'est avec soulagement que je verrai l'eau monter. Entre-temps, j'espère qu'il n'arrivera rien à Amy. Il en sait trop sur la chose, et l'influence qu'elle exerce est par trop insidieuse. Pourquoi n'a-t-il jamais pu se résoudre à partir? Et comme il se rappelait bien les derniers mots de Naoum, «
Tu peux pas lui échapper. Elle t'attire. Tu sens que ça arrive, mais ça change rien. »
Le vieil Amy est un brave homme. Quand l'équipe se mettra au travail sur le réservoir, il faudra que j'écrive à l'ingénieur en chef de veiller sur lui. Je refuse de l'imaginer sous la forme de cette aberration grise, difforme, desséchée qui, de plus en plus souvent, trouble mon sommeil.